Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Eliott Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin, à la technique, Ludovic Auger. Et tout de suite, nous pénétrons dans la galaxie néolibérale.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Néolibéralisme, voilà un terme que l'on trouve essentiellement dans la bouche de ceux qui le dénoncent. Souvent résumé à un capitalisme devenu fou, il désigne pourtant une nébuleuse de courants de pensée dont les clivages ont traversé le XXe siècle. Du New Deal aux années Reagan et Thatcher, les doctrines néolibérales naviguent entre défense du libre-marché et intervention de l'État. Alors comment ce concept tant décrié s'est-il propagé? La France mène-t-elle aujourd'hui une politique néolibérale? Et le néolibéralisme est-il un individualisme? Voilà les questions qui nous occuperont toute cette semaine. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons rendre au concept galvaudé de néolibéralisme toute sa complexité grâce à notre invité Serge Audier, maître de conférences en philosophie morale et politique à la Sorbonne, auteur de cet ouvrage, le colloque Lippmann aux origines du néolibéralisme, paru aux éditions du Bordelot. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Comment se présente la programmation néolibéral à notre époque? Vous savez qu'on la repère sous deux formes principales, disons avec un point d'ancrage et un point historique différent, disons l'ancrage allemand qui s'accroche à la République de Weimar, à la crise de 1929, au développement du nazisme, à la critique du nazisme et enfin à la reconstruction d'après-guerre. L'autre point d'ancrage, c'est l'ancrage américain, c'est-à-dire un néolibéralisme qui, lui, se réfère à la critique de la politique Roosevelt. Entre ces deux formes de néolibéralisme, bien sûr, tout un tas de passerelles. Ne serait-ce d'abord que l'ennemi commun, l'adversaire doctrinal majeur, qui est bien sûr Keynes. Deuxièmement, les mêmes objets de répulsion, à savoir l'économie dirigée, la planification, l'interventionnisme d'État. Et puis enfin, entre ces deux formes de néolibéralisme, toute une série de personnages, théories, livres, etc., qui ont circulé et dont les principaux sont von Mises, Hayek, etc.
Bonjour Serge Audier.
Bonjour.
C'est avec Michel Foucault que nous avons voulu commencer cette émission, extrait de son cours au Collège de France du 31 janvier 1979. Pour Michel Foucault, il y a une filiation directe entre le néolibéralisme des années 30 et celui des années 70?
C'est plus compliqué que ça. D'abord, c'est intéressant parce que ce cours a été tardivement publié dans les années 2000, ce qui fait qu'il a été, exalté par ses lecteurs comme une critique radicale du néolibéralisme, je dirais, de toutes les époques, alors même que le rapport de Foucault au néolibéralisme était sans doute beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. En tout état de cause, Foucault est un philosophe du pouvoir et il réfléchit à la manière de gouverner les conduites. Et il remarque, il considère que dans les années 70, quelque chose bouge, quelque chose se transforme et les modes de régulation des conduites, les modes de gouvernement des hommes et de l'économie sont en train de changer. Il écrit son cours au moment où Raymond Barre prend la tête de la politique en France, où Valéry Giscard d'Estaing est proche de la politique qui est menée en Allemagne et noue des alliances avec les Allemands, et il veut déchiffrer notre présent. Et pour lui, au fond, le présent qui est celui de 1979, c'est celui d'une transformation radicale de la manière de gouverner, où on va de plus en plus dans l'économie, mais plus largement dans la société, gouverner les individus en prenant comme point d'accroche, si j'ose dire, leurs intérêts, la façon dont ils veulent eux-mêmes maximiser leurs intérêts. Et au fond, on part de l'individu comme une sorte de micro-entreprise, dit-il.
Allez, et on n'est pas du coup sur la consommation ou sur l'échange qui peuvent être une autre manière de définir le néolibéralisme.
Voilà, il dit l'homme néolibéral, c'est pas l'homme de l'échange, c'est pas tel qu'on l'a cru à partir d'Adam Smith. L'homme néolibéral, c'est un entrepreneur, et dit-il de manière assez curieuse tout de même, un entrepreneur de lui-même qui, au fond, veut se comporter comme une entreprise. Et au fond, il dit aussi que les gouvernements partent désormais de cette nouvelle transformation de l'homme, ou en plus tout cas de la manière de gouverner les hommes, pour, je dirais, mener une politique qui, de facto, conduit à désétatiser, à débureaucratiser et à sortir d'une société de masse, que ce soit la consommation de masse, parce qu'il y avait beaucoup de théoriciens critiques de la société de consommation, que ce soit la critique de l'entreprise de masse, si j'ose dire, l'entreprise fordiste. Il voit que quelque chose se défait, que quelque chose change, et il essaye de traduire cela. Et c'est là qu'il revient à une généalogie, effectivement, du passé. Il voit le début de ce changement dès les années 30.
Et donc, il y a une thèse selon laquelle le colloque Lippmann de 1938, sur lequel on va revenir, serait le point de départ d'une reconquête idéologique des esprits qui aurait triomphé avec Reagan et Thatcher. Est-ce que c'est une thèse, voilà, avec laquelle vous êtes en désaccord, avec cette idée qu'il n'y aurait pas un néolibéralisme, mais des néolibéralismes?
D'abord, c'est drôle parce qu'il parle très peu, ou ça l'intéresse pas tellement la révolution thatchérienne qui est quand même en cours en 79. Il ne dit pas un mot de Pinochet et du coup d'état de Pinochet, et surtout de la politique friedmanienne des Chicago Boys qui a lieu à ce moment-là, ce qui est très intéressant parce que ça témoigne peut-être du fait qu'il passe à côté de dimensions autoritaires du néolibéralisme, parce que le néolibéralisme d'Helmut Schmidt, c'est pas le néolibéralisme de Pinochet et des Chicago Boys. Donc là, il y a quelque chose de très troublant dans le fait qu'il passe à côté de ça, et y compris d'ailleurs de la bataille de Margaret Thatcher, qui a quand même lieu à ce moment-là. Alors, la question que pose Foucault et qui se pose à partir de Foucault, c'est est-ce que le fameux colloque Walter Lippmann de 1938 est, je dirais, la généalogie de notre présent? Le colloque Lippmann, est-ce qu'on en parle maintenant ou pas? Je ne sais pas. Peut-être
on
que
va y venir. Alors justement,
très rapide.
On va en parler dans un instant. Je voudrais simplement qu'on entende d'abord le président Roosevelt, parce qu'il faut bien comprendre, voilà, que cette pensée néolibérale apparaît dans le contexte du New Deal lancé par Roosevelt en 1933. On l'écoute lors d'un discours prononcé à Green Bay le 9 août 1934. J'ai particulièrement aimé la définition donnée l'autre jour par un membre du Congrès. Il disait que le New Deal est en réalité un old deal, aussi vieux que les plus anciennes aspirations de l'humanité à la liberté, à la justice, et à mener une bonne vie. Il est aussi nouveau que la déclaration d'indépendance des États-Unis, et ses principes sont les mêmes. Il a pour but de soutenir toute la société, pauvre comme riche, travailleurs manuels comme intellectuels, dans une fraternité volontaire d'hommes libres, solidaires et travaillant ensemble pour le bien de tous. Est-ce que l'on peut commencer par dire, Serge Audier, pour définir ce néolibéralisme des années 30, c'est qu'il émerge en réponse à la crise du libéralisme économique, crise qui est incarnée par la Grande Dépression qui intervient à ce moment-là?
Voilà, le contexte d'émergence du premier néolibéralisme, j'essaierai de faire une périodisation tout à l'heure des usages du mot néolibéralisme, le contexte d'émergence du premier néolibéralisme, c'est un contexte de crise radicale du libéralisme. Le libéralisme est considéré comme mort dans toute une partie de la planète. Mussolini, Hitler, Staline, évidemment, enterrent radicalement le libéralisme.
Libéralisme politique.
Politique, mais aussi le libéralisme très largement économique, bien que sous des modalités très diverses. Et puis, il y a l'expérience, effectivement, du New Deal. Alors, il est amusant, la Roosevelt, parce qu'il essaie de dire que son projet se situe dans l'héritage profond des États-Unis, ce qui sera contesté, évidemment, par les libéraux américains au sens de la droite américaine, parce que c'est quand même une révolution, la révolution Roosevelt, dans la manière de programmer l'économie, de la diriger, de donner aux syndicats un pouvoir de contractualisation et un pouvoir tout court absolument considérable. Donc, c'est une révolution à l'intérieur même du capitalisme pour sauver le capitalisme.
Et c'est cet interventionnisme-là qui est dénoncé par une certaine frange de ces nouveaux néolibéraux.
Alors c'est là que les choses sont infiniment subtiles. C'est l'époque donc du New Deal, c'est aussi l'époque de ce qu'on appelle le planisme, et c'est la mode de la planification. Là-dessus émergent un certain nombre de libéraux, d'ailleurs divers, qui sont face à cette nouvelle donne, si j'ose dire, du libéralisme, de la crise du libéralisme et de la sortie du libéralisme. Et au fond, ils veulent sauver le libéralisme tout en le rénovant. C'est ça la première signification du mot néolibéralisme. C'est révision, rénovation du libéralisme. Il y avait un autre mot très à la mode à l'époque, c'était néo-socialisme. Et notamment, on sait que le néo-socialisme voulait réviser le socialisme. En particulier, le deuxième néo-socialisme, celui de Déa, voulait, au fond, être sur le thème de ordre, autorité, nation, etc.
On parle de néolibéralisme, et je vous interromps un instant, Serge Audier, ce n'est pas un terme qui date des années 30, en revanche.
C'est un terme qui remonte, il y a une très longue archéologie, mais disons que le sens moderne, c'est celui quand même des années 30, et ce terme des années 30, il circule en Belgique, en Allemagne, dans plusieurs pays, notamment en France, et donc néolibéralisme, ça veut dire révision du libéralisme, en intégrant une partie de la critique qui a été menée dans les faits et dans les discours du libéralisme. Donc il s'agit quelque part d'intégrer une part de vérité de la critique du libéralisme. Alors, quelle est-elle? Premièrement, les néolibéraux des années 30 disent, notamment Walter Lippmann et d'autres, qui par parenthèse n'étaient pas si hostiles qu'on le croit à Roosevelt et au New Deal, Lippmann a aussi conseillé Roosevelt, je ferme la parenthèse, mais ces néolibéraux disent, d'abord, le marché du laisser-faire, c'est fini. Il faut un ordre, il faut des régulations, il faut des règles, il faut construire en quelque sorte le marché. D'où l'idée, notamment chez les critiques du néolibéralisme, que là, il y a quelque chose de très nouveau, à savoir qu'il va y avoir une sorte de constructivisme concurrentiel. La concurrence ne va plus de soi, il faut la construire. Et donc, c'est sur cette base qu'on dit le néolibéralisme, c'est le cauchemar d'une société de concurrence généralisée, mue par l'État. Sauf que il y a quand même deux points à nuancer. Le premier, c'est quand même, notamment chez les Allemands, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce qu'on considère que des situations de monopole sont des situations de pouvoir et des situations de domination. Les néolibéraux ne sont pas nécessairement favorables à toutes les situations de pouvoir et de domination. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'un certain nombre de ces néolibéraux, notamment Walter Lippmann et d'autres, considèrent qu'il y a des correctifs sociaux à faire et que si les masses sont en révolte radicale contre le capitalisme et le libéralisme, c'est qu'elles ont des bonnes raisons d'en avoir. Et par exemple, à côté d'un programme qu'on pourrait appeler de libéralisme concurrentiel ou de marché concurrentiel, Walter Lippmann dit qu'il faut des taxes de succession absolument massives, impôts progressifs massifs.
Pas trop vite, etc. Serge Audier, ouais. Si vous le voulez bien, on va revenir effectivement à la personne de Walter Lippmann, parce que c'est vraiment un personnage très intéressant. Mais pour bien comprendre, aujourd'hui, quand on pense au néolibéralisme, on pense à justement un rejet massif, total de l'intervention de l'État. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce néolibéralisme des années 30 intègre le rôle de l'État. Et ça, c'est intéressant.
Il y a trois interprétations. La première, c'est l'interprétation, le néolibéralisme, c'est le laisser-faire, c'est le fondamentalisme de marché, c'est l'anarchie capitaliste. Il y a une deuxième interprétation qui est la plus à la mode aujourd'hui dans les cercles intellectuels académiques, c'est de dire c'est l'État ou les pouvoirs publics ou l'Europe ou les institutions européennes qui instillent une concurrence volontaire par un certain nombre d'institutions. Ça, c'est la thèse à la mode dans les cercles académiques. Et il y a une troisième interprétation, c'est que le néolibéralisme a aussi une histoire, c'est un peu l'interprétation que j'essaye de défendre personnellement, qui n'est pas plus favorable ou défavorable, c'est pas la question, c'est la question de la vérité, si j'ose dire, que le néolibéralisme a une histoire, et dans cette histoire, je dirais que les années 30, c'est quand même, on avait les ruines sur la tête, c'était une situation de cataclysme, le colloque Lippmann a lieu après l'Anschluss, il y a des menaces partout contre le libéralisme, non seulement économique, mais aussi politique, et un certain nombre, je dis bien un certain nombre, c'est là toute la complexité du colloque Walter Lippmann, un certain nombre de néolibéraux disent on doit refonder profondément le néolibéralisme, y compris en répondant, pas de la même manière certes que la gauche ou que les Rooseveltiens ou que les socialistes, mais en répondant à la misère des masses. D'où le fait qu'il y a un certain nombre de programmations sociales, d'éléments sociaux, assurances sociales et autres, qui sont intégrés, même si ça ne fait pas plaisir aux critiques actuelles du néolibéralisme, ça existe et il faut le prendre en compte pour comprendre l'historicité du néolibéralisme.
Alors écoutons justement les mots de Lippmann dans les années 30. Il publie The Good Society, la cité libre en français, extrait.
Le seul instrument dans lequel les collectivistes ont confiance, c'est l'autorité gouvernementale. On dirait qu'ils ne peuvent rien imaginer d'autre et qu'ils ont oublié que tous les progrès qui leur sont chers ont été obtenus en émancipant les hommes de la puissance politique, en limitant le pouvoir, en libérant les énergies individuelles de l'autorité et de la contrainte collective. Presque toutes les doctrines que l'on considère aujourd'hui comme progressistes en Angleterre et aux États-Unis proclament la nécessité d'un accroissement des pouvoirs de l'État. On demande toujours plus de fonctionnaires, exerçant un pouvoir toujours plus étendu sur un nombre toujours plus grand d'activités humaines.
Voilà, une lecture en direct par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Une réaction, Serge Audier, à ce texte que l'on vient d'entendre?
Alors, c'est un texte typique d'un moment de crise de Walter Lippmann dans son propre parcours. Lippmann, c'est quelqu'un qui vient du socialisme. C'est quelqu'un qui a été un des grands théoriciens de ce que deviendra le rooseveltisme. Il a notamment dirigé la revue New Republic qui posait les bases du rooseveltisme.
Et c'est un ami proche de Keynes.
C'est un ami très proche de Keynes. Les Keynes ont passé leurs vacances ensemble. Et c'est un admirateur fervent de Keynes qui a publié Keynes dans la revue The New Republic. Et puis... approche les années 30, il soutient le New Deal, il soutient Roosevelt et il s'en détache progressivement, mais de manière complexe, parce qu'au fond, il dit qu'il y a des bonnes choses dans le New Deal, mais le New Deal va trop loin dans une forme de bureaucratisation et de dirigisme. Et de surcroît, Lippmann est un spécialiste des relations internationales, un wilsonien, et il voit la montée des autarcies et des politiques autarciques dont il considère qu'elles vont mener tout droit au cataclysme de la guerre. Il aura, de ce point de vue-là, pas tort. Et donc, il est dans un moment de crise où il essaye, notamment avec Keynes, de convaincre Roosevelt de changer sa politique. Il y a une correspondance qu'on peut lire dans laquelle Lippmann se bat auprès de Keynes pour que Keynes ait des aspects de politique, je dirais, de budgétaire importante, de relance et autres, mais il essaye de faire en sorte que sa politique soit moins bureaucratique et moins dirigiste. Voilà un certain nombre d'éléments.
Et c'est face aux excès du New Deal et de la politique menée par Roosevelt qu'il va développer ses théories à la fois dans son livre, puis au moment de ce colloque qui aura lieu donc en 1938.
Oui, mais ce qui est fascinant dans la dédicace du colloque Lippmann, c'est qu'il le dédicace à la fois où il rend hommage à Hayek et Mises, qui sont les libéraux autrichiens violemment anti-étatistes et violemment pour le libre marché, pour dire les choses, même si il considère aussi qu'il y a un certain nombre d'aggiornamento à faire. Mais d'autre part, il dédicace ou il rend hommage à Keynes, et je cite, qui a tant fait pour démontrer au peuple libre que l'économie peut être régulée sans dictature. Et donc, on voit bien la complexité d'un personnage qui est un journaliste, hein, c'est pas un économiste, qui bricole et qui cherche quelque part une voie entre, je dirais, le collectivisme et les impasses du libéralisme de laisser-faire. Il est en train de chercher une troisième voie, en quelque sorte, et le terme de troisième voie était très à la mode. Mais en même temps, c'est vrai que son éloge du libre marché, de la concurrence, les libéraux vont dire « Ah ah, ça c'est très intéressant !» Et les ultralibéraux, pour dire les choses de manière simpliste, verront tout de suite en Lippmann, et pour de bonnes raisons à certains égards, un allié. Vous avez toute la complexité de toute création culturelle qui peut donner lieu à des reprises et à des interprétations diverses. Je rappelle que Michel Debré, qui était quand même une éminence grise du gaullisme, adorait Walter Lippmann dans les années 40. C'était pas un ultra-libéral, Michel Debré. Et donc, on en vient au colloque Lippmann.
Et alors justement, ce qui est intéressant chez Lippmann, c'est qu'il critique le libéralisme historique qui, selon lui, se serait corrompu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Serge Audier?
Alors, il considère que le libéralisme historique a une très grande grandeur, si j'ose dire. Et il se veut libéral. Et c'est un tournant de son point de vue. Et le libéralisme, pour lui, a brisé toutes les corporations, a brisé toutes les formes de domination. Et le libéralisme a produit, au fond, plus d'émancipation et plus de richesse collective. Et Lippmann fait un hymne à la division du travail moderne. Il dit qu'on ne reviendra pas en arrière. Et de ce point de vue-là, c'est, comme certains le disent, un thuriféraire, ou en tout cas un partisan d'une adaptation continue au développement de la modernité économique.
Mais selon lui, ce libéralisme aurait oublié ses racines progressiste et émancipatrice. Alors, fur et à mesure de son histoire?
Il y a deux choses. La première, on en a déjà parlé, c'est que ce libéralisme s'est encalciné dans le fait qu'il a été un dogmatique de laisser-faire. Et donc, on a laissé se développer les monopoles, on a laissé se développer les pouvoir de dominant, et donc on a laissé se coaguler en quelque sorte des formes de domination et de monopole qui sont contradictoires avec l'économie de marché et l'économie de concurrence.
Une très grande proximité élite politique, élite économique.
Il y a aussi ce problème-là des rapports incestueux, d'ailleurs, entre élite politique et élite économique. Et le deuxième point, c'est qu'il considère qu'il a été indifférent aux souffrances sociales. Il le dit en toutes lettres. Et Herbert Spencer, par exemple, qui était le libéral par excellence, dont certains veulent voir maintenant aujourd'hui le père de Walter Lippmann, a certes influencé peut-être sur certains points Walter Lippmann, mais enfin, c'est sa bête noire. Pourquoi? Parce que Herbert Spencer, c'est le théoricien de l'individu contre l'État. Et Herbert Spencer, c'est quelqu'un qui était favorable à des politiques sociales extrêmement pauvres, pour ne pas dire crues. actuel et une forme de darwinisme social. Or, il dit, la faute historique des libéraux, c'est de ne pas avoir pris en compte les immenses souffrances sociales que génère l'économie de marché. Et il y a d'autres auteurs très conservateurs à la même époque, Röpke ou Rustoff en Allemagne, qui ont un peu le même diagnostic. Ce sont devenus des libéraux, ils sont favorables à l'économie de marché concurrentielle, mais ils considèrent que nous sommes face à un cataclysme social et que la révolte des masses, en quelque sorte, s'explique par les déficiences même du libéralisme. Juste un mot là-dessus, parce que c'est intéressant, parce que ça divise les libéraux qui sont réunis au fameux colloque Walter Lippmann.
Alors on va venir aux divisions entre libéraux et entre néolibéraux, Serge Audier. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit sur Walter Lippmann, sur le fait que c'était un personnage inclassable et qu'il pouvait rassembler des tendances très diverses. C'est exactement ce qu'on retrouve au colloque lui-même de 1938. On a énormément de tendances différentes qui s'expriment.
Tellement inclassable qu'il soutiendra quand même dans les années 60 les politiques progressistes de Kennedy, qui étaient quand même des politiques très à gauche, hein, par parenthèse. Il faut voir la complexité du personnage. Bien, effectivement, ce colloque Lippmann, c'est donc un colloque qui est instigé par un personnage qui s'appelle Rougier, qui est un philosophe, qui lui est quelqu'un très à droite, mais vraiment très à droite, avec une vision selon laquelle, au fond, l'idéal égalitaire de la Révolution française est un dogmatisme, et au fond, c'est un penseur conservateur, pas un penseur réactionnaire, mais un personnage conservateur qui, en plus, sentira de plus en plus le soufre pour diverses raisons qu'on ne peut pas explorer ici. Donc, c'est un homme de droite, mais c'est aussi un libéral qui a notamment observé le fascisme, il a vécu en Italie, et qui dit au faut que tous les libéraux de bonne volonté, si j'ose dire, se réunissent pour faire face à la montée des totalitarismes de tous bords, fascistes, communistes, nazis. Donc son but, c'est de fédérer des libéraux. Et comme Walter Lippmann était passé à Paris pour son livre, il a dit on va faire tout cela autour de Lippmann. Donc c'est au fond le dernier carré des résistants du libéralisme. Par parenthèse, il faut quand même avoir ça en tête du point de vue du contexte, parce que c'est pas les libéraux des années 90 qui sont dans des grands hôtels en Suisse.
Ils sont alors très minoritaires.
Ils sont ultra minoritaires. Et ils sont dans une angoisse absolue. C'est-à-dire que certains voient leur vie saccagée. Par exemple, l'appartement de Mrs. sera saccagé par les nazis en Autriche après l'Anschluss. Donc, ce sont des libéraux de diverses obédiences. Il y a des libéraux, je dirais, de l'école autrichienne. C'est Mrs. Hayek, qui se réclame d'un auteur, en particulier Hayek, qui s'appelle Karl Menger, qui sont des libéraux assez extrêmes, très critiques de l'État bureaucratique, et qui ont un programme de recherche, je dirais, fortement anti-étatiste, même si Hayek est capable de beaucoup d'accommodements selon les périodes.
Donc ça c'est l'école autrichienne, ça, c'est l'école allemande.
Et vous avez l'école allemande avec deux personnages qui s'appellent Röpke et Rustoff, qui ont fréquenté d'ailleurs les mêmes, notamment en Suisse, à l'Institut des hautes études internationales de Genève. Donc ils se connaissent, ils sont amis, mais ils ont une sensibilité différente. Certes, ils sont pour l'économie de marché et ils sont contre l'État bureaucratique, mais ils considèrent que donc il y a une faillite interne du libéralisme, et cette faillite interne, elle est aussi liée à un très profond anti-modernisme de ces auteurs. Ce sont des auteurs nostalgiques de la société paysanne, ce sont des auteurs qui célèbrent l'artisanat, ce sont des auteurs religieux, ce sont des auteurs qui, au fond, sont nostalgiques d'une forme d'encadrement rural, chrétien, et au fond, il y a chez eux une critique de la technique, une critique de la publicité commerciale absolument étonnante.
Alors,
etc. Ce sont un peu des conservateurs libéraux.
Écoutons leurs mots.
S'engueuler à ce moment-là.
Alors, on va voir ce qui va se passer, mais d'abord, je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention d'Alexandre Rostov lors du colloque Lippmann le 29 août 1938.
Tout bien considéré, il est indéniable qu'ici, dans notre cercle, deux points de vue différents sont représentés. Les uns ne trouvent rien d'essentiel à critiquer ou à changer au libéralisme traditionnel, tel qu'il fut et tel qu'il est, abstraction faite naturellement des adaptations et des développements courants qui vont de soi. À leur avis, la responsabilité de tout le malheur incombe exclusivement au côté opposé, à ceux qui, par stupidité ou par méchanceté, ou par un mélange des deux, ne peuvent ou ne veulent pas apercevoir et observer les vérités salutaires du libéralisme. Nous autres, nous cherchons la responsabilité du déclin du libéralisme dans le libéralisme lui-même. Et par conséquent, nous cherchons l'issue dans un renouvellement fondamental du libéralisme.
Ce que l'on comprend bien, Serge Audier, c'est que à ce moment-là, le camp libéral est divisé en deux, entre les partisans d'un interventionnisme qui serait libéral, et les défenseurs d'un libéralisme plus radical.
Alors, en fait, ils sont au moins 4, 5, que sais-je. Mais disons qu'il y a des libéraux comme Mises qui sont, au fond, des libéraux très orthodoxes du point de vue de moins d'État, etc. Il y a des libéraux comme Hayek, Rustov et Röpke, qui sont pour un encadrement sociologique et religieux beaucoup plus fort des individus.
Et qui vont déjà vers l'ordolibéralisme
qui sont, en quelque sorte, liés au mouvement de l'ordolibéralisme, qui se développe au même moment en Allemagne et qui sont, ont des liens avec l'ordolibéralisme, sauf qui sont moins juristes, ils sont plus sociologues. Mmh. Et puis vous avez au colloque Liebmann aussi des gens comme Robert Marjolin, qui sera une figure extrêmement importante de l'histoire de France et de la construction européenne, qui à l'époque admire le New Deal précisément, et qui est plutôt quelqu'un de libéral, mais enfin il a des grosses racines socialistes, il n'est pas du tout un ultralibéral. Donc il y a une très grande divergence. Mais je voudrais revenir quand même sur cette controverse entre Mises et Rustov à propos notamment de l'économie paysanne, parce que Mises, c'est quelqu'un qui célèbre le capitalisme, mais qui dit si les paysans, il y en a moins, si on va vers une société industrielle, c'est formidable, c'est lié au progrès du capitalisme, etc. Et Rustov, lui, dit que au fond, la condition paysanne est une condition qui est une condition bonne, et il faut rétablir en quelque sorte un certain nombre de connexions des hommes avec la société, avec la terre, etc. Et juste deux mots très amusants, si j'ose dire là-dessus, après le colloque Liebmann, Rustov écrira à son ami Röpke, disant, mais ces types-là, enfin, il dit pas ces types-là, hein, il est poli, Mises et Hayek, pour moi, ils devraient figurer dans un musée, derrière une vitre, comme des dinosaures en quelque sorte, libéraux, et il les appelle des paléolibéraux. Donc il est en désaccord profond. Juste un deuxième mot très intéressant sur Rustov, qui était un vrai libéral, attention, hein, qui sera un aspirateur, on en reparlera peut-être, de ce qu'on appelle l'économie sociale de marché. Rustov, par exemple, c'est quelqu'un qui très souvent a dit qu'il fallait quasiment abolir l'héritage. Bon, à côté, Piketty fait un peu petit bras. C'est quelqu'un qui a dit qu'il fallait donc souvent abolir la publicité commerciale. C'est quelqu'un qui a dit qu'il fallait taxer les grosses entreprises. Au fond, la pensée de Rustov est très liée à un contexte allemand double. D'une part, et c'est la racine de l'ordolibéralisme, une critique des cartels et des concentrations industrielles qui étaient très typiques de l'économie allemande. Et deuxièmement, un conservatisme romantique très profond.
Il faudrait que vous nous définissiez, que vous définissiez pour nous, Serge Audier, un peu plus que c'est que l'ordolibéralisme, qui est inspiré par Walter Eucken avec cette idée d'un État qui est censé encadrer la concurrence.
Voilà. Alors l'ordolibéralisme est naît parallèlement à au libéralisme sociologique de Röpke et de Rustov. Il s'impose ou il se définit dans les années 30 autour d'un personnage qui s'appelle Walter Eucken, qui est un économiste mais aussi un juriste et un philosophe. Et la thèse des ordolibéraux, c'est que le marché ne fonctionne pas spontanément et qu'il faut une structure institutionnelle, une structure légale, une structure politique active et en permanence, je dirais, reconstruite, qui veille à ce qu'il y ait un bon fonctionnement de l'économie de marché.
Donc un État assez fort.
Un État fort. Et c'est pour ça, souvent, Rustov a fait une fameuse conférence en 1932 qui s'appelle « Économie libre, État fort », dont certains disent qu'elle était inspirée d'un philosophe qui s'appelle Carl Schmitt, qui est un philosophe qui est un inspirateur du nazisme, ou plutôt un nazi dans les années 30, et qui admirait Mussolini dès les années 1924. Et au fond, quand on dit cela, on dit « Vous voyez, les ordolibéraux, c'est des gens partisans d'un État fort, ils sont proches de Carl Schmitt, ils sont un peu fachos, c'est ce qu'on appelle le libéralisme autoritaire. Ce qui n'est pas faux, sauf que leur position, c'est justement qu'il y a des formes de pouvoir qui sont dans l'économie. D'une part, il y a le pouvoir patronal, et ils sont très méfiants vis-à-vis des grosses entreprises et du poids qu'ont les grosses entreprises sur la décision politique et des liens incestueux entre les grosses entreprises et le pouvoir politique. Ça veut dire concrètement que Bruxelles ou Strasbourg, assaillis par les lobbies, ne sont pas aussi néolibéraux au sens ordolibéral qu'on le dit. Mais deuxièmement, ça veut dire aussi qu'ils pensent qu'une économie concurrentielle est plus favorable à une certaine forme de prospérité, mais aussi il y a un certain nombre d'éléments sociaux. Ils sont aussi conscients d'éléments sociaux. Je ne veux pas en faire des braves sociolibéraux, des braves sociodémocrates.
Mais il y a aussi des disparités et des divergences entre les ordolibéraux, de la même façon qu'il y a entre les néolibéraux des divergences. On va poursuivre, Serge Audier, notre histoire du néolibéralisme dans un instant.
Le Marc et le Franc, il me manque Marc et Franc. Il me manque Marc et le Franc, il me manque Marc et Franc. Don't
Money Note de Camille sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, suite de notre genèse du néolibéralisme, des néolibéralismes, avec le philosophe Serge Audier. Alors, on a parlé du colloque Lippmann qui s'est tenu en 1938. Puis c'est la guerre, l'occupation allemande et le régime de Vichy. À ce moment-là, l'institutionnalisation de cette pensée néolibérale va marquer le pas, Serge Audier?
Ah mais clairement, à un moment, Rougier reçoit une lettre de Lippmann qui dit « c'est plus du tout à l'ordre du jour pour moi, pourtant c'est la guerre et que les démocraties survivent ». Et donc il veut pas du tout s'investir dans ce qu'on appelle le Centre international pour la rénovation du libéralisme. Mais donc il y a quand même une petite nébuleuse qui se crée juste après le colloque Lippmann, donc le Centre international pour la rénovation du libéralisme. On retrouve d'ailleurs des divisions très intéressantes. Il y a un personnage qui s'appelle Louis Marliot, complètement rayé de la mémoire du néolibéralisme, qui quand même ouvre le colloque à... De manière très claire, et Marliot, c'était un industriel qui se réclamait notamment d'un certain libéralisme social. Il appelle d'ailleurs le néolibéralisme libéralisme social. Il est marqué par une pensée catholique, corporatiste, etc.
Donc, mais les néolibéraux, pardon de vous interrompre, Serge Audier, n'ont pas encore d'influence sur les politiques qui sont menées en Europe.
Non, du tout, puisque en fait, ils n'en auront pas pendant très longtemps, sauf peut-être en France et en Allemagne, j'y reviendrai dans un instant. Donc dans les années 40, ce qui se passe, c'est que c'est un moment évidemment d'entre deux, si j'ose dire. Mais quelqu'un devient vraiment le grand manœuvrier de cette affaire. Ce n'est plus Lippmann, ce n'est plus Rougier, mais c'est Hayek. Et Hayek, au fond, part en offensive, si j'ose dire, pour reconstituer la nébuleuse néolibérale. Il propose la création d'une académie qui devrait discuter des grands points du libéralisme, avec quand même une obsession. Quiconque lit sa biographie en est très frappé, c'est qu'il veut dénazifier l'Allemagne. C'est quand même une obsession que Foucault a bien perçue quand même chez les ordolibéraux aussi et chez d'autres. Il veut dénazifier l'Allemagne et son académie avait aussi vocation à cela. Il a écrit son livre très célèbre qui s'appelle La route de la servitude, qui est au fond un projet de rénovation du libéralisme, mais qui au fond, plus que Lippmann et plus que les ordolibéraux, veut réaffirmer la grandeur d'une tradition libérale, notamment anglaise. Il fait l'éloge d'Adam Smith, il fait l'éloge de libéraux favorables au libre-échange.
Et c'est pour cela qu'il participe à la création de cette société du Mont-Pèlerin qui va être importante pour la reconquête de l'idéologie néolibérale.
Voilà, en plus son livre a une version américaine qui lui voue un très grand succès et le colloque Lippmann, la création de la société du Mont-Pèlerin fait suite à la fois au colloque Lippmann et à la fois à une nature spécifique. Elle se crée en 1947, Hayek en est donc un des initiateurs, mais aussi Röpke qu'on retrouve, Rustov viendra plus tard dans cette affaire. Et cette société du Mont-Pèlerin, c'est au fond le dernier carré des libéraux de nouveau. Sauf qu'il n'y a plus le fascisme, il n'y a plus le nazisme, mais il y a l'Union soviétique et il y a partout des politiques interventionnistes de welfare state qui se mettent en place. Et au fond, ces libéraux, comme toujours, sont hostiles à ces politiques. Je ne veux pas que mon propos soit mal compris. Ce sont des gens très hostiles au welfare state et très hostiles aux politiques dirigistes. Et au fond, ils veulent réhabiliter le libéralisme. Et là, ce qui est très intéressant, c'est quand même qu'il y a par rapport au colloque Walter Lippmann, des différences assez intéressantes. D'abord, on ne parle plus de néolibéralisme. On parle de libéralisme et on veut retrouver la vraie tradition du libéralisme. D'autre part, lors du colloque Walter Lippmann, il y avait quand même l'idée qu'à côté d'une économie de marché et de libre concurrence, il fallait détourner un certain nombre de richesses collectives, si j'ose dire, pour des intérêts publics, par exemple les assurances sociales, par exemple l'enseignement, par exemple la recherche scientifique.
Et ça disparaît avec la société du Mont-Pèlerin.
Largement. Ce qui est mis en avant, c'est quand même les vertus de la propriété privée, ce sont les vertus de l'initiative individuelle, c'est l'état de droit ou le règne de la loi. C'est donc un agenda qui est beaucoup plus radical. Et en plus, il y a une nouvelle sociologie sur laquelle on pourra peut-être revenir.
Et avant cela, je vous propose d'écouter Friedrich Hayek.
D'accord.
Socialism assumes that all the available knowledge can be used by a single center.
Le socialisme présume que toute la connaissance disponible peut être utilisée par une unique autorité centrale. Il néglige que la société moderne, que je préfère désormais appeler l'ordre prolongé et qui excède la perception de n'importe quel esprit individuel, est basé sur l'utilisation de connaissances largement dispersées. Et une fois que vous avez conscience que nous pouvons obtenir une grande utilisation des ressources disponibles uniquement parce que nous utilisons les connaissances de millions d'hommes, il devient évident que la présomption du socialisme qu'une autorité centrale peut commander toute cette connaissance n'est tout simplement pas correct.
So my answer is, if the factual assumption of
Si les présomptions factuelles du socialisme étaient correctes, cela serait un devoir moral de viser une juste distribution. Mais vous devez reconnaître que vous n'en êtes pas capable. En réalité, vous pouvez produire suffisamment pour maintenir l'actuelle population du monde seulement grâce à un processus spontané, un mécanisme qui vous permet d'utiliser infiniment plus de connaissances qu'aucune autorité centrale n'en possède.
Serge Audier, selon Hayek, il faut laisser le marché se réguler lui-même parce que c'est le seul moyen d'éviter le totalitarisme ?
Alors, c'est un excellent choix de citation que vous avez fait là, parce qu'en fond, il y a vraiment la spécificité du message de Hayek. En 36, il fait une conférence qui, pour lui, sera fondamentale dans la genèse de sa propre pensée sur la dispersion de la connaissance. Hayek, c'est un théoricien de la connaissance, et au fond, il dit une chose simple, la connaissance est dispersée, et aucun cerveau central, aucun dirigeant ou gouvernant ou instance gouvernementale ne peut programmer toute la société et toute l'économie. Et en 35, il avait en plus coordonné donner un livre dont Mises était un des contributeurs éminents, qui disait qu'au fond, l'économie socialiste, dans la mesure où elle est une économie étatisée et dirigée, car pour eux c'était ça le socialisme dans le contexte de l'époque, c'est une économie qui échoue structurellement pour des raisons, je dirais, de théorie de la connaissance. Et ça, c'est la chose qu'il a développée dans les années 30. Ensuite, il y a la route de la servitude, où il dit non seulement ça marche pas, mais c'est dangereux. C'est-à-dire que ça va détruire les libertés, ça va détruire la liberté humaine. Donc on a là quelque chose de très typique de la vision de Hayek, à savoir qu'il y a d'une part ce qu'il appelle les ordres spontanés, et au fond il ne cesse de faire l'éloge des ordres spontanés. Certes, l'État ou les institutions ou la loi peut jouer un rôle dans ces ordres spontanés, mais eux-mêmes sont souvent le produit d'une genèse spontanée. Donc d'une part, il y a les visions du spontané.
L'ordre spontané, c'est le marché autorégulateur.
C'est le marché libéral, dont les prix, j'ai pas assez parlé des prix qui sont fondamentaux dans cette construction, sont au fond la cheville fondamentale. Donc il y a d'une part l'économie de marché, qui est l'économie de libre formation des prix, et cette économie de marché, elle est la meilleure productrice de richesse, de croissance et de liberté.
Selon Hayek,
ça va sans dire. Ce n'est pas mon point de vue. Et d'autre part, il y a ce qu'il appelle le constructivisme, et ce qu'il appellera le constructivisme, c'est-à-dire l'État, l'idée que la société est construite, produite par un cerveau central programmateur. Et au fond, sa polémique contre le socialisme, c'est ça. Il ne s'en prend pas au socialisme de Proudhon ou au socialisme libertaire. Pour lui, ça n'existe pas vraiment, tout ça. Il s'en prend au socialiste qui était quand même, surtout en Allemagne et autres, le socialisme dominant, pour lui, c'est-à-dire le socialisme étatique. Mmh. Et pour eux, au fond, le socialisme, c'est un étatisme.
Vous avez dit, Serge Audier, que l'allemand Röpke faisait partie de cette société du Mont Pèlerin. Mais ce qu'on constate, c'est que, alors, on l'a dit, il y a des divisions au sein de cette société, mais il va y avoir une vraie montée en puissance, finalement, de la frange la plus radicale au sein de la galaxie néolibérale. On peut dire que cette société du Mont Pèlerin, elle va à la fois se radicaliser et s'américaniser.
Alors, que les choses soient claires, hein, ces Allemands ne sont pas des social-démocrates cachés, ils sont radicaux à leur manière. Hein. Ils sont pour le libre-marché, Röpke détestera de plus en plus le welfare state, ils sont radicaux à leur manière et ils sont très très conservateurs. J'ajoute, puisque j'ai pas eu le temps de le dire, que d'une part ils se méfient du pouvoir privé des entreprises, mais d'autre part, comme Hayek et comme la plupart des néolibéraux, ils se méfient ô combien du pouvoir syndical. Et donc ce sont pas des braves sociaux-démocrates, etc. Ce sont des conservateurs libéraux tout à fait méchants, si je dire, et qui peuvent avoir des positions très antidémocratiques quand ils se méfient des masses. Que les choses soient claires. Donc il n'y a pas des mous et des durs, mais il y a quand même des sensibilités divergentes. Et dans ces sensibilités divergentes, il y a aussi une transformation sociologique de la société du Mont-Pèlerin. En 47, c'est complexe. Vous avez les Allemands, et la société du Mont-Pèlerin sera souvent une vitrine, durant les premières années, de l'économie sociale de marché en Allemagne. Et Ludwig Erhard viendra à la société du Mont-Pèlerin et parlera à la société du Mont-Pèlerin. Donc vous avez un pôle allemand.
Il faut expliquer qui est Ludwig Erhard pour les auditeurs.
Ludwig Erhard, c'est celui qui a fait la politique de l'économie sociale de marché en Allemagne, qui est au fond la vitrine la plus avancée du libéralisme en Europe.
Ça parce que la reconstruction économique de l'Allemagne.
L'Allemagne avait eu un passé nazi et un passé très dirigiste. Par parenthèse, en plus, Keynes avait fait l'erreur de dédicacer son livre de la théorie générale, de présenter son livre de la théorie générale en Allemagne dans les années 30, en disant que cette théorie s'appliquerait très bien dans le contexte allemand de l'époque, ce qui était quand même assez désastreux du point de vue de la réception de son travail par les libéraux. Je ferme la parenthèse. Bref, pour eux, ils veulent tourner la page du dirigisme. Et donc, les Allemands vont essayer d'inventer ce qu'on appelle l'économie sociale de marché. Certains disent l'économie sociale de marché n'est rien d'autre que l'ordolibéralisme, c'est-à-dire une politique politique de la concurrence dont on estime qu'elle va porter des fruits et donc du social. Mais en fait, quand on étudie de près l'économie sociale de marché et les théoriciens de l'économie sociale de marché, en particulier un personnage qui s'appelle Müller-Harmack, on voit qu'il y a dans l'économie sociale de marché beaucoup d'éléments de ce qu'on appellera une politique sociale de welfare, même si elle est beaucoup moins étatisée et bureaucratisée que dans d'autres visions.
Et donc vous disiez que cette sociologie de la société du Mont-Pèlerin allait évoluer.
Là, il y a les Allemands. D'autre part, ce qui est nouveau dans la société du Mont-Pèlerin, c'est qu'arrivent des nouveaux acteurs, et en particulier les Américains. D'une part, il y a l'école de Chicago, dont Milton Friedman deviendra plus tard la figure la plus connue, mais qui à l'époque est beaucoup plus complexe. Mais malgré tout, il y a l'école de Chicago, et puis il y a des lobbies anti-Roosevelt, puisqu'on parlait de Roosevelt, notamment ce qu'on appelle le Volcker Fund et d'autres institutions qui sont des institutions qu'on appellera free market, c'est-à-dire des institutions qui sont véritablement très violemment anti-étatiques, très violemment contre toute forme de welfare state, et je dirais que ce pôle très free market, eh bien, il marque des points. Dès le début, il est là. Dès le début, il contribue au financement de la société du Mont-Pèlerin. Il va progressivement non seulement gagner des parts de marché, si j'ose dire, dans la société du Mont-Pèlerin, mais il va peu à peu imposer son agenda. Pour prendre un exemple très concret, au début, il y avait l'idée que les monopoles, c'est pas bien, typiquement ordo-libéral, il faut contrer les monopoles, etc. Peu à peu, on va dire, ouais, les monopole, c'est pas si grave, finalement, ça fait partie d'une économie libre. Et peu à peu, la société du Mont-Pèlerin sera infiniment moins, je dirais, regardante, chatouilleuse sur les monopoles.
Donc ça, c'est l'influence, effectivement, de ces lobbies. Mais alors, si cette sociologie change, on avait des théoriciens, au fur et à mesure, on a des chefs d'entreprise qui arrivent, on a aussi des politiques. Serge Audier, à quel moment il y a véritablement une traduction politique de ces idées néolibérales et de l'influence de ces idées?
Alors d'abord, justement, ça répondra à votre question, il y a un troisième pôle qui jouera un rôle très très important dans les années 60-70, c'est ce qu'on appelle l'Institute of Economic Affairs, c'est-à-dire les théoriciens de ce sera la révolution thatchérienne. Donc vous avez aussi les Anglais qui rentrent dans la danse, donc des Américains, des Anglais. Alors quelles sont les concrétisations? Dans les années 50, la concrétisation c'est l'économie sociale de marché allemande. Et au fond, même si Mrs. Hayek considère qu'ils sont un peu mous, qu'ils sont trop modérés, c'est au fond la meilleure forme de libéralisme qu'on puisse trouver dans l'époque. Donc, ils sont plutôt du côté de l'économie sociale de marché et du modèle allemand et de ce qu'on appelle le miracle allemand. Et puis, peu à peu, se mènent des offensives très importantes. D'abord, Milton Friedman soutient les candidats républicains, les candidats conservateurs. Et le point de basculement, je dirais qu'il est, y compris eu égard au mot néolibéralisme, il est d'abord avec le coup d'État de Pinochet en 73 et les expériences qu'on appellera celles des Chicago Boys. Par parenthèse, faut pas dire coup d'État néolibéral, parce qu'à l'époque, Pinochet, il n'a pas des idées typiquement néolibérales, il a des idées complexes.
Mais avant d'en arriver au Chili, pardon Serge Audier, je voudrais quand même préciser que Hayek et Friedman reçoivent l'un et l'autre le prix Nobel d'économie, enfin le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, en 1974 et en 1976, c'est aussi peut-être un point de bascule de cette plus grande visibilité, cette plus grande influence des idées de la société du Mont-Pèlerin.
Et puis, comme le disait Milton Friedman disait les idées font pas tout, c'est surtout les contextes qui permettent à des idées d'exister ou pas. Et Milton Friedman était très conscient, Hayek aussi, que tout simplement il y avait une crise du keynésianisme et une crise des solutions et des miracles keynésiens. C'est-à-dire que quand on rentre dans la période de stagflation et quand, au fond, dans les années 70,
il y a un mélange de stagnation de la croissance et d'inflation.
Voilà. Eh bien, tout d'un coup, même des partisans du rooseveltisme, du keynésianisme, disent il y a un os. Il y a quelque chose qui ne marche plus dans les solutions keynésiennes. Et donc, on est à un moment de crise des solutions keynésiennes. On est aussi dans un moment de très forte turbulence, de contestation liée à l'après 68 ou l'après du mouvement des années 60. Et donc, à la fois, il y a un moment de crise dans, je dirais, les modèles dominants d'économie qui étaient au fond une synthèse keynésienne et classique. Et il y a une crise aussi dans la façon de gouverner les sociétés, puisqu'il y a des résistances de plus en plus importantes. Donc c'est un moment de crise où au fond Friedman et Hayek disent ben voilà, nous on a l'alternative, c'est nous qui la détenons, et ils vont se mettre à faire une forme d'influence sur Reagan, sur Thatcher et sur les révolutions libérales et conservatrices.
Les libéraux classiques ne chassent absolument pas le gouvernement, y compris de l'économie. Et c'est ce qui va être repris en particulier par les premiers théoriciens de l'école économique de Chicago. Le gouvernement a tout de même pour vocation d'assurer la liberté des acteurs de l'économie. Et là, on arrive à quelque chose d'assez complexe, mais qui est passionnant. Pour qu'il y ait laisser-faire, il faut tout de même qu'il y ait conditions optimales qui peuvent, par exemple, jusqu'à Milton Friedman lui-même, être assurées que par le gouvernement. Et là, il est tout à fait fidèle à la vision classique, puisque c'est ce que l'on retrouve aussi bien chez des gens comme Jean-Baptiste Say, Bastiat, etc. Donc, il y a toujours du gouvernement. C'est une intervention, si l'on peut dire, négative. Et c'est ça qui a séparé ces pionniers de l'école de Chicago, et même Milton Friedman, de leurs adversaires, ceux qui ont fait le New Deal et ceux qu'on a pu appeler, en effet, les liberals à l'américaine.
Le philosophe Alain Laurent, dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, c'était le 25 juin 2013. Serge Audier, il ne faudrait peut-être pas caricaturer le rôle de l'État tel qu'il est pensé par l'école de Chicago. Il y a quand même une mission qui lui est dévolue par Friedman et les autres théoriciens.
Absolument, ce ne sont pas des anarchistes. Même les Autrichiens, même Mises disaient « moi je ne suis pas un anarchiste, l'État a un rôle à jouer ». D'ailleurs, parfois, ils étaient pour qu'un État soit non seulement contraignant, mais parfois répressif. Et on sait que les libéraux ou les néolibéraux ont parfois appuyé des formes d'État forts, voire d'État répressif. Donc, de fait, les néolibéraux sont pas anti-étatistes au sens où ce seraient des anarchistes. Ce sont pas des purs libertariens au sens de Murray Rothbard ou d'autres.
Mais ils sont de plus en plus contre la régulation, en particulier du côté de l'école de Chicago.
Alors, ce qui est très intéressant dans l'école de Chicago, et surtout avec Milton Friedman, qui par parenthèse dans les années 50 avait parlé de néolibéralisme, mais après n'en parlera plus, il parlera de libéralisme classique, c'est évidemment d'abord une critique radicale du keynésianisme et des politiques budgétaires keynésiennes qui dit que de toute façon, elles sont complètement inefficaces. Donc ça, c'est un premier point très important. C'est une arme de guerre contre le keynésianisme, le monétarisme de Friedman. Et d'autre part, donc, c'est l'importance absolument cruciale accordée aux banques centrales et ce qu'on a appelé le monétarisme, c'est-à-dire le refus des politiques discrétionnaires et une forme de constitutionnalisation, si j'ose dire, de la production de monnaie de manière très, très limitée. Sauf que Friedman était un pragmatique et considérait que dans certains cas, on pouvait faire autrement. Mais juste un mot très intéressant là-dessus, c'est que même là, vous voyez des différences entre les différentes écoles, parce que les Friedmaniens, l'école de Chicago, en général, est pour les banques centrales et pour les banques indépendantes, alors que les Autrichiens, les Miséens, les disciples de Hayek, se méfient beaucoup. Hayek n'était pas favorable à une banque centrale. Donc même là, vous avez des divergences très importantes qu'on verra ressurgir, notamment au moment de la crise de 2007-2008, où au fond, les Friedmaniens disaient, il faut quand même faire quelque chose, ne serait-ce que pour sauver le capitalisme. Et les Autrichiens, les Hayekiens, les Miséens, disaient au fond, faut mieux laisser les choses au fond se purger. Et donc, on voit que même pour des choses absolument cruciales, comment gérer la crise de 2007-2008, les paradigmes économiques, eh ben, ils ont une influence absolument considérable dans la façon de piloter l'économie et piloter les choix publics.
Vous avez évoqué le cas du Chili, Serge Audier. C'est intéressant de s'y arrêter parce que dans ces années 70, on a un néolibéralisme économique qui s'impose aux États-Unis, au Royaume-Uni, un peu partout en Europe sous différentes formes, mais il y a ce laboratoire particulièrement controversé qui est celui du Chili de Pinochet et on parle alors de miracle chilien.
On parle alors de miracle chilien, par parenthèse, les critiques quand même parle de néolibéralisme, et c'est ça qui est intéressant pour revenir au sujet de notre émission, c'est que là, le terme devient péjoratif. C'est-à-dire, ce sont les adversaires de ces politiques qui emploient le mot néolibéralisme. Ce ne sont plus du tout les partisans.
Hein. C'est à partir du cas du Chili que le néolibéralisme revêt vraiment un caractère négatif, péjoratif.
Et devient de plus en plus parlé, si j'ose dire, par les adversaires. Donc là, il y a un basculement, ce ne sont plus les partisans, mais ce sont les adversaires. Et au fond, ce qui est très intéressant, c'est que de fait, Raymond Aron, qui était un libéral plus modéré, avait dit, si on veut instituer une politique d'économie de marché radicale, eh bien, il faut la dictature politique. C'est Raymond Aron qui l'a dit. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez vraiment une économie de marché hard, si j'ose dire, eh bien, vous devez quand même court-circuiter les corps intermédiaires, les syndicats et imposer les choses de manière forte. Eh bien, c'est ce qui se passe en quelque sorte avec Pinochet. Cela dit, il y a un contexte aussi qui est très intéressant, c'est que ces néolibéraux des années 50, 60, 70, c'était des Cold Warriors, c'était des adversaires radicaux du communisme, des adversaires radicaux du socialisme. Ils étaient tout à fait, pour certains d'entre eux, complaisants avec des régimes autoritaires. Je rappelle quand même que Hayek a dédicacé son livre des années 60 sur la constitution de la liberté. Il a envoyé une dédicace à Salazar, c'est-à-dire quand même un régime ultra dur et ultra antidémocratique au Portugal. Donc, ils peuvent avoir des accointances avec des régimes forts et des régimes durs. Et de fait, l'expérience Pinochet a été un laboratoire pour eux. Mais malgré tout, il faut quand même pas oublier que Reagan et Thatcher sont arrivés au pouvoir de manière tout à fait légitime et avec l'appui des électeurs.
Friedman s'est tout de même expliqué sur sa participation à l'économie chilienne. C'était le 10 janvier 2000.
Le véritable miracle au Chili, car le Chili est de loin le meilleur exemple de réussite de l'Amérique latine. N'est pas tellement le succès de ces réformes économiques, car c'est ce qu'Adam Smith disait, le vrai miracle est qu'un régime militaire accepte de les appliquer. Je me suis rendu au Chili, j'ai donné des conférences au Chili. En réalité, j'ai bien rencontré M. Pinochet, mais je n'ai jamais été dirigé par lui, je n'ai jamais reçu un centime du gouvernement chilien, je n'ai jamais été son conseiller. Mais je dirais que ce processus a conduit à la tenue d'élections qui mirent fin au régime militaire. Et vous avez maintenant un gouvernement démocratique.
L'exemple du Chili de Pinochet peut être interprété de deux façons. Serge Audier, je vous demanderai de conclure là-dessus parce que c'est la fin de cette émission déjà. Mais on peut en conclure d'un côté que néolibéralisme et autoritarisme se marient à merveille. Ou au contraire, et c'est l'interprétation de Friedman comme on vient de l'entendre, que le néolibéralisme économique a précipité la chute de la dictature.
Oui, c'est un peu une rationalisation peut-être. Mais de fait, Friedman a aussi conseillé Deng Xiaoping, il conseillait tout le monde. Et il croyait que la liberté économique portait en elle la liberté politique. De ce point de vue-là, il avait une idéologie très forte, mais ça ne l'empêchait pas quand même d'être assez complaisant vis-à-vis de régimes qui ont été criminels.
Et vous l'avez dit, c'est un terme qui cristallise, ce terme de néolibéralisme, les critiques du système capitaliste et de ses dérives. On continuera à en parler dans les prochains jours. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Xavier Martinez en journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Première négociation ce matin entre le gouvernement et les organisations syndicales sur la réforme des retraites. Quelques ouvertures, mais après un mois de blocage, le consensus est-il possible?
Eh bien, Édouard Philippe tente effectivement un pas, comme il le disait, vers les partenaires sociaux avec la convocation vendredi d'une conférence de financement. C'était un souhait de la CFDT, mais celle-ci et l'UNSA posent toujours comme condition le retrait de l'âge pivot d'ici là. Or, le gouvernement ne veut pas renoncer à ce fameux âge pivot à 64 ans, ni au projet de retraite par points dont l'intersyndicale CGTFO Solidaire réclame le retrait pur et simple. En attendant, c'est le ministère du Travail qui a tenté une négociation sur la pénibilité et les carrières. Alors, cette stratégie suffira-t-elle à renouer le dialogue social? Écoutez ce qu'en disait Caroline Diard, elle est enseignante-chercheuse en management et droit à l'EDC Paris Business School.
Il est évident que autrefois, quand on travaillait dans les mines, c'est pas la même chose que quand on est enseignant ou quand on est conducteur de train. Les caisses, elles ont leurs histoires. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, la vraie négociation, elle est là-dessus. Elle est de se dire quelles sont aujourd'hui les conditions de pénibilité, les conditions de travail, la capacité dans une corporation, dans un métier, d'un individu à pouvoir travailler jusqu'à un âge qui va être décidé, qui est l'âge pivot. C'est peut-être un moyen d'aboutir à une sortie de crise et aboutir à un texte parce que ça permet de recentrer le débat sur quelque chose qui est objectif. Si on commence effectivement à négocier au cas par cas et qu'on se retrouve avec des régimes qui sont censés ne plus être spéciaux mais qui deviennent finalement spécifiques, on n'a pas fait du dialogue social et on n'a pas abouti à la réforme qui était une promesse de campagne au départ.
Plusieurs catégories de salariés ont d'ailleurs déjà obtenu des aménagements au sein du futur régime, Xavier.
Oui, les policiers, routiers, marins, danseurs de l'Opéra de Paris, des personnels de l'aviation civile et j'en passe. C'est à ça que faisait référence Caroline Diard. Cette tactique a marché, mais elle s'expose aux revendications d'autres catégories et aux critiques de ceux qui, comme les Républicains, dénoncent une réforme vidée de sa substance qui perpétuerait donc les régimes spéciaux. Reste à voir le financement. Autre piste possible, dit Caroline Diard, là, une autorité légitime indépendante de l'État pour contrôler la fameuse valeur du point, une manière de réintroduire les partenaires sociaux en bout de course.
On passe au bref avec un autre front pour le gouvernement, les relations avec les États-Unis et la taxe numérique. Là encore, recherche d'un compromis.
Oui, c'est Bruno Le Maire et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin qui s'entendent sur un délai de 15 jours pour parvenir à un compromis global au sein de l'OCDE sur cette nouvelle fiscalité numérique, jusqu'ici fixée unilatéralement par la France à 3% du chiffre d'affaires des sociétés et qui touche principalement les GAFA. Entre-temps, la France gagnerait l'exemption de nouvelles taxes américaines sur 2,4 4 milliards d'euros d'exportation et Washington qui a déjà perdu face à Airbus éviterait un nouveau contentieux à l'OMC, réponse au forum de Davos à la fin du mois.
La France également offensive dans le domaine de la fiscalité classique avec une nouvelle liste noire des paradis fiscaux.
C'est une information exclusive Les Échos. Pour sa première révision depuis 2016, cette liste noire est plus réduite avec 13 États concernés au lieu de 17, parmi lesquels les Bahamas ou les Seychelles. Le Panama, notamment sous les projecteurs depuis le fameux scandale, y est maintenu. D'autres, comme le Botswana, le Guatemala ou les îles Marshall, en sortent en raison de leur progrès. Selon le Conseil d'analyse économique, la fraude fiscale des entreprises en France est estimée à 4,6 milliards d'euros par an.
Et pour finir, l'entreprise SpaceX devient le premier opérateur de satellites au monde.
Avec ce nouveau lancement réussi de 60 satellites, sa constellation Starlink va dépasser de 20 satellites les 140 appareils de la firme Planet Labs, qui eux servent à photographier la Terre en haute résolution. Starlink, lui, doit servir à fournir des connexions Internet au débit en zone non couverte, mais SpaceX est talonné par son grand concurrent OneWeb, qui prévoit, lui, 650 satellites. Très haut débit d'ici 2021.
Merci Xavier et à demain.
John met me down on the boulevard. Cry on his shoulder cause life is hard. The waves came in over my head. What you been up to, my babe? Haven't seen you around here lately. All of the guys tell me lies, but you don't. You just crack another beer and pretend that you're still here. This is how to disappear. This is how to disappear.
How to Disappear de Lana Del Rey, extrait de son album Norman Fucking Rockwell, sacré meilleur album de l'année 2019 par le magazine Pitchfork. Merci beaucoup Serge Audier de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage paru aux éditions du Bord de l'Eau, le colloque Lippmann, sous-titré aux origines du néolibéralisme, et d'autres ouvrages dont on mettra les références sur le site franceculture.fr, sur la page d'Entendez-vous l'écho. Demain, la France mène-t-elle une politique néolibérale? On en parle à partir de 14h. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.